Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
France Culture, 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Dani.
Vous recevez aujourd'hui Serge Sûr, directeur de la revue Questions internationales. L'objet de votre discussion est l'idée d'une ONU plus juste.
Oui, plus juste, plus efficace, disait hier Donald Trump qui plaidait pour une réforme de l'ONU.
Yet in recent years, the United Nations has not reached its full potential.
Ces dernières années, les Nations Unies n'ont pas atteint leur potentiel à cause de la bureaucratie et d'erreurs de management. Mais je sais que avec le nouveau secrétaire général, c'est en train de changer rapidement, on le voit. C'est pour ça que nous le soutenons quand il dit qu'il faut plus se concentrer sur les gens que sur la bureaucratie.
Et voilà, moins de bureaucratie, dit Donald Trump. Bonjour Serge Sûr.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu ici aujourd'hui, professeur de droit international et directeur de la revue Questions internationales. Alors cette réforme de l'ONU, de nouveau débattue, le président américain s'en prend à ce qu'il appelle la bureaucratie et veut amener l'organisation à plus d'efficacité, on l'a entendu. C'est une initiative, ça a été commenté, qui peut surprendre de la part d'un président qui minorait le rôle de l'ONU en janvier. On se souvient qu'il parlait d'un club où les gens se rassemblent, bavardent et passent un bon moment, mais initiative qui s'inscrit dans le mandat aussi du nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et dans une histoire internationale récente avec l'Ukraine, la Syrie, la Libye, qui ne plaide pas forcément en faveur du potentiel de déminage des conflits de l'organisation. Alors cette question de la réforme est débattue depuis au moins 12 ans, mais avec ce projet non explicité, certains soupçonnent les États-Unis de vouloir reprendre le contrôle. En tout cas, jusqu'ici, Serge Sûr, 128 pays sur les 193 de l'ONU ont signé. Jusqu'où ira cette initiative, que voudrait dire une ONU plus efficace, on voit ça. Votre avis peut-être sur cette initiative qu'on a pris pour un contre-pied de Donald Trump, je le disais, mais qui s'inscrit dans ce mandat d'Antonio Guterres, puisque lui-même avait dit qu'il fallait réformer l'ONU en prenant ses fonctions. Pourquoi est-ce que Donald Trump a devancé en quelque sens Antonio Guterres ?
Alors, je crois qu'il l'a accompagné plus que devancé. Alors, ce qui est intéressant déjà, c'est le fait que Trump s'intéresse aux Nations Unies, alors qu'on pensait que il aurait une attitude de dédain et de distance à son égard. Bon, il saisit l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies. Vous savez que tous les ans, il y a cette rencontre, cette réunion des chefs d'État et de gouvernement et que chacun vient tour à tour exposer sa conception de l'organisation. Et c'est le multilatéralisme déclaratoire en quelque sorte, mais qui ne va guère au-delà des déclarations. Et c'est l'occasion qu'a saisi Trump pour manifester de l'intérêt, ce qui a été évidemment très bien accueilli, parce que le simple fait que les États-Unis marquent de l'intérêt pour les Nations Unies, ça suscite tout de suite beaucoup d'engouement parmi les membres. Quant à son propos, on peut dire qu'il est minimaliste.
Alors précisément, cette déclaration en 10 points, on l'a lu, minimaliste, vous dites ?
Minimaliste en ce sens que ce qu'il vise, c'est essentiellement le secrétariat. Or, les problèmes des Nations Unies et de la réforme des Nations Unies ne concernent pas que le secrétariat. Il est vrai qu'il concerne aussi le secrétariat, dans la mesure où l'ONU a des contraintes très importantes en termes de recrutement de son personnel, où l'élément compétence n'est pas nécessairement déterminant par rapport à d'autres critères, qui sont les quotas nationaux, qui sont les questions de genre, enfin il y a de multiples critères qui viennent un petit peu contrarier le choix purement et simplement fondé sur la compétence. Et là, il est clair que Trump met l'accent sur cette dimension, et on peut dire qu'il y a une double dimension. La première, c'est réduire les coûts. La deuxième, c'est avoir un personnel plus efficient.
Parce qu'on pourrait dire, tout d'abord, il y a là une vraie question qui est de notoriété publique maintenant pour les États-Unis, c'est que les Américains sont les premiers contributeurs de l'ONU, que ce budget de l'ONU, Donald Trump le rappelait hier, est quand même assez inflationniste. Je crois que c'était 140% et un doublement des effectifs depuis 2000. Il y a donc un vrai problème budgétaire et le secrétariat général est un vrai enjeu, en tout cas sa gestion.
Oui, le secrétaire général, d'ailleurs, il a été choisi pour avoir une conception tout à fait limitée de ses fonctions. On n'a pas voulu un représentant politique de haut niveau. On a voulu quelqu'un qui serait d'abord dans l'humanitaire. Et c'est au fond le rôle que les grandes puissances sont prêtes à concéder aux Nations Unies, en tout cas les États-Unis. L'humanitaire. Et d'autres souhaiteraient qu'elle ait un rôle davantage politique, mais au fond, Guterres est d'accord pour cantonner les Nations Unies à ce rôle-là. Et dans cette mesure, je le disais, Donald Trump accompagne Guterres.
Et alors, je le disais aussi, et vous, c'est ce que vous dites, Guterres avait un projet de réforme. Alors, cette réforme, elle est large, elle concerne pas seulement le Conseil de sécurité. Il y avait la réforme des contributions, des opérations extérieures. Beaucoup de choses ont été envisagées. On va y revenir, mais simplement sur les prises de position, puisque Donald Trump avait réuni ce mini-sommet hier. 128 pays donc, ont signé cette déclaration à minima, dites-vous. L'attitude de la France a été un peu trouble. Finalement, elle a signé. Qu'est-ce que peut valoir cette adhésion à une déclaration finalement peut-être un peu vide ?
C'est une déclaration de principe. Et il faudra voir quels sont les actes qui suivent. Ils seront probablement limités. Pour ce qui est de la France, elle n'était pas extrêmement heureuse du fait qu'elle n'ait pas été consultée au départ dans la préparation même de ce communiqué. Donc elle a manifesté un petit peu de réticence, un petit peu de mauvaise humeur, mais finalement elle s'est ralliée à ce qui apparaît très largement comme un quasi-consensus au sein de l'organisation.
Parce qu'il y a eu une multiplication de ce qu'on a appelé aussi les groupes de réforme ces dernières années, depuis 2005, avec notamment les pays qu'on a appelés du G77, ceux qui les pays en développement dans l'action climatique. Ces groupes de réforme, on les a pas vus là se prononcer sur cette déclaration.
Non, il faut bien dire que le thème de la réforme des Nations Unies, c'est vraiment le serpent de mer et que ça traîne depuis des décennies. Et avec une certaine force, depuis au moins 92, c'est-à-dire après la chute du mur de Berlin, la réunification, on s'est demandé ce qu'on allait faire des Nations Unies. Et là, il y a eu pas mal d'idées, notamment l'idée de l'élargissement du Conseil de sécurité. Ça a été le thème dominant pendant quelques années. Élargissement du Conseil de sécurité, intégration de l'Allemagne, intégration du Japon, intégration de l'Inde, intégration
on voulait passer
de quelques grands pays.
De 15 à 24 pays.
Voilà, on voulait passer, augmenter le nombre des membres du Conseil de sécurité d'une dizaine, davantage de membres permanents. Et puis finalement, ça n'a débouché sur rien. Parce que chacun des candidats virtuels avait un adversaire. L'Italie ne voulait pas de l'Allemagne, ou en tout cas ne voulait pas être sans l'Allemagne, voulait y être en même temps. La Chine avait beaucoup de réticences à l'égard du Japon, et je ne parle pas de l'Inde. Le Pakistan n'était pas content à cette idée. Enfin bref, cette réforme, elle a débouché sur le vide, et je crois qu'on ne peut pas réformer le Conseil de sécurité dans sa composition actuelle. De la même manière qu'on ne peut pas réformer le veto. Jamais aucun pays ne renoncera au droit de veto. Et il ne faut pas oublier que les Nations Unies sont construites autour du veto. Ce n'est pas malgré le veto, c'est à cause du veto. Aucune des grandes puissances ne serait engagée dans les Nations Unies s'il n'y avait pas eu cette clause de sauvegarde, en quelque sorte, qui est le fait qu'ils ne pouvaient être engagés que par eux-mêmes. Alors, et ils ne seraient pas engagés contre leur volonté.
Précisément, justement, si vous parlez de l'échec de ce plan, j'imagine que c'est celui de 2005 qui avait été porté par Kofi Annan, où il y avait effectivement plusieurs propositions d'élargissement du Conseil de sécurité, où la question du veto avait été prise en compte. Et précisément, je crois que pour Singapour, en tout cas, qui s'était exprimé à l'époque, la question du veto, c'était la question aussi fondamentale. En tout cas, ce qu'il appelait l'EP5, ceux du Conseil de sécurité restreint, les membres privilégiés, comme il le disait, du statu quo. Personne ne peut croire qu'ils vont devenir les champions enthousiastes de la réforme, disait Singapour à l'époque. Aujourd'hui, on voit que la Chine ni la Russie n'ont signé la déclaration de Trump. Ça veut dire que cette réforme, il faut la laisser couler et revenir comme un serpent de mer. Finalement, il n'en sera pas question, puisqu'elle n'est pas à l'ordre du jour cette année.
La réforme des grands équilibres politiques, certainement pas. En revanche, une réforme du secrétariat, le secrétariat apparaissant un peu comme le bouc émissaire de l'impuissance de l'organisation, ça, oui, mais c'est une réforme qui est en cours depuis pas mal de temps déjà. Elle est continue. L'idée qu'on va réduire les dépenses, qu'on va réduire le personnel, et en tout cas qu'on va chercher à avoir un fonctionnement plus efficace, il n'y a rien de nouveau. C'est une logique administrative qui est en cours depuis des décennies. Alors ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu tout de même de graves dérives dans les opérations du maintien de la paix. Et ce qui tient à leur structure, ce qui tient au fait que les contingents qui sont fournis par les États pour servir dans les opérations restent sous commandement national. Et que, en réalité, le commandant des forces des Nations Unies n'a qu'une autorité très restreinte sur les contingents nationaux. À partir de là, il se produit des dérives que l'on connaît bien, les abus sexuels, les trafics divers. et les Nations Unies sont un peu impuissantes face à cela. Alors, peut-être bien est-ce qu'on pourrait réformer assez en profondeur les opérations du maintien de la paix, mais là c'est une autre tâche.
Alors ça c'est la question du maintien de la paix, et dernier point, si je reviens à la question du potentiel, disons, de déminage des conflits, est-ce que il y aurait une réforme, est-ce que ça passe par une réforme quelconque de l'ONU, ou alors là c'est la question simplement des relations internationales qui s'expriment dans l'Assemblée Générale?
Alors, je crois que les Nations Unies c'est un miroir des relations internationales, ça ne peut pas apporter en soi une solution. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un forum indispensable, parce que c'est au fond le dernier réduit du multilatéralisme. On voit bien que le multilatéralisme est en crise, on ne négocie plus, les conventions en vigueur, on tend à les remettre en cause, en tout cas un certain nombre d'entre elles, et l'ONU demeure. Mais il ne peut pas aller très loin. Dès lors qu'il y a des affrontements entre grandes puissances, qu'il y a division des grandes puissances, l'ONU devient inefficace. Et ça, on le voit bien dans l'affaire ukrainienne, on le voit bien dans l'affaire syrienne, par exemple. En revanche, lorsque les grandes puissances ne sont pas impliquées ou lorsqu'elles sont d'accord, l'ONU peut avoir une certaine efficacité. Et il ne faut pas oublier que, en matière de terrorisme, par exemple, il y a eu de grandes résolutions qui ont été adoptées par le Conseil et qui sont la clé de la coopération internationale. Il ne faut pas oublier non plus qu'en matière de non-prolifération, le Conseil de sécurité a pu prendre des mesures, peut-être plus ou moins efficaces, mais enfin des mesures solides, contre l'Iran, contre la Corée du Nord, et que donc il apparaît comme un outil indispensable donc, pour la non-prolifération.
Et donc toujours un outil de maintien de la paix malgré tout, on en reparlera.
Merci. Absolument.
Merci beaucoup en tout cas Serge Sure, directeur de la revue Questions internationales.
Merci Xavier, merci Serge Sure, bonne journée.